être ce matin à l'écoute des 10 commandements en tout début de culte, vous avez été gêné ou même choqué, en tous les cas interloqué. Ce n'est pas dans les habitudes de commencer par la loi de Dieu. Nous aimons débuter nos cultes par l'annonce de la grâce de Dieu, le rappel que Dieu le premier nous invite et nous accueille. Le rappel que, avant de nous demander quoi que ce soit, Dieu se fait amour et nous l'annonce. Et ce choix, bien entendu, n'est pas innocent, car pour nous réformés, la grâce de Dieu précède toute autre chose. Dieu nous aime le premier, sans condition. C'est cela qui a été affirmé haut et fort lors de la réforme protestante au XVIe siècle, et nous en sommes encore aujourd'hui les porte-parole. En même temps, nous restons une Église réformée, qui s'est réformée une fois, il y a plusieurs siècles, mais qui dit aussi qu'elle doit sans cesse se réformer pour rester fidèle aux Écritures et au Christ. Nous avons besoin sans cesse de nous interroger, de nous positionner, de nous remettre en question et de nous confronter à la parole de Dieu pour rester de vrais réformés vivants. Alors nous qui affirmons si fort le principe de la grâce de Dieu et qui peut-être parfois laissons trop vite de côté la loi de Dieu, nous avons décidé ce matin avec notre groupe de relever le défi de la loi. Nous avons choisi d'entendre au tout début du culte la loi que Dieu nous donne et de la revisiter avec nos yeux de chrétiens. D'un premier abord, cela ne fait aucun doute, la loi assomme. L'un de nous a dit en préparant et après l'écoute des 10 commandements, c'est pour moi un coup de massue. C'est vrai, la loi est fournie, exigeante, dure, implacable. Cette loi me culpabilise quand je l'entends. Je n'arriverai jamais à tout faire. Et puis ce texte pose problème. Il nous parle d'un Dieu jaloux. Je n'aime pas la loi. Elle me fait la morale. A ajouté encore cette personne. C'est vrai, à l'écoute de ce texte, il nous paraît très lourd et même culpabilisant. J'aimerais faire deux remarques. La première, le temps des verbes de tous ces commandements, dans le texte original qui est l'hébreu, vous le savez, s'appelle l'inaccompli. C'est en fait une sorte de futur pour nous. Alors ce n'est pas « tu ne dois pas avoir d'autre Dieu », mais « tu n'auras pas d'autre Dieu ». Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui je ne dois pas tout faire pour n'avoir qu'un seul Dieu, notre Seigneur, mais que l'accomplissement total de tout cela ne se fera que plus tard, dans le royaume des cieux, pour nous. Alors effectivement, je ne peux pas, avec mes capacités humaines, respecter tous ces commandements de façon pleine, mais je dois y tendre. Deuxième remarque, il me semble que Dieu, et plus tard son Fils Jésus-Christ, ne sont pas venus vraiment pour nous culpabiliser. Est-ce que je me trompe? Est-ce que Dieu est venu pour nous culpabiliser? Dès le début de l'humanité, qu'est-ce que Dieu a fait après que Adam et Ève lui aient désobéi? Est-ce qu'il les a enfermés? Séparés l'un de l'autre, privés de descendance, Dieu les a habillés, leur a confié la terre et leur a donné deux fils, Caïn et Abel. Dieu les a suivis sur leur chemin chaotique et ne les a jamais abandonnés. Qu'a fait Dieu après le premier geste irréversible de violence humaine? Vous savez, le meurtre de Caïn contre son frère Abel. A-t-il maudit Caïn? L'a-t-il privé de descendance? Non. Et Dieu a même donné protection à Caïn pour ne pas qu'il se fasse tuer par les autres. Puis il lui a donné une femme, et une descendance. C'est ainsi que de génération en génération, le péché, avec le péché et l'humain, Dieu n'a jamais lâché prise. Jamais Dieu n'a abandonné son peuple. Jamais Dieu n'a renoncé, car nous sommes ses enfants. Et malgré les chutes répétées, la bénédiction divine est toujours là. Dieu n'abandonne pas. Dieu ne nous abandonne pas. Et puis, vous le savez, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour briser cette spirale infernale du péché et de la culpabilité. Comment a réagi Jésus face à une femme adultère que tous lapidaient et face à un collecteur d'impôts crapuleux que tous condamnaient? Jésus leur a parlé, les a touchés, leur a donné une nouvelle identité et s'est même invité chez eux. Jésus les a libérés de leurs péchés et des péchés que les autres leur faisaient porter. Jésus a fait d'eux des hommes et des femmes libres. Dans le passage de l'évangile de Jean que Nicole a lu tout à l'heure sur les marchands du temple, il est dit au dernier verset, Jésus n'a pas besoin qu'on les renseigne sur les gens, car il sait ce qu'il y a dans le cœur humain. Alors c'est vrai que dans ce passage de Jean, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les marchands du temple. Mais dans l'absolu, ce verset est une très bonne nouvelle. Ces mots du Christ ne sont pas dits par dépit, mais parce que malgré ce que Jésus voit en nous, il continue. Il a de l'espoir pour nous. Dieu en Jésus-Christ connaît nos cœurs abîmés, déçus et pleins de doutes. Et malgré tout, Dieu continue d'être à nos côtés et de nous aimer comme ses enfants. Jésus nous donne de la valeur. Il nous donne un nom. Dieu en Jésus-Christ veut toujours faire route avec nous et nous promet la vie, malgré tout ce que nous haïssons en nous et chez les autres. Alors vous me direz, pourquoi la loi? À quoi ça sert? Après cette lecture de la loi, toujours dans notre petit groupe, il y a eu une autre réaction. C'est bien de parler de la loi un petit peu. On ne respecte plus rien aujourd'hui. Ça fait du bien d'entendre ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et certains commandements sont encore d'actualité. Respecter le jour de repos, respecter son père et sa mère. On a tendance à oublier la loi, et pourtant elle structure notre foi. La loi, c'est vrai, a aussi un sens strictement social. Pour vivre ensemble, il faut des limites. C'était le cas à l'époque du peuple d'Israël, cela l'est encore aujourd'hui. La loi est là pour nous rappeler nos limites, notre finitude et notre humanité. Et la mise en garde contre l'oubli de la loi est importante pour nous réformer. Aujourd'hui, nous tombons peut-être trop facilement dans une grâce à bon marché. Une grâce facile qui ne mène à rien. Vous savez, celle qui offre tout, mais sans mettre en marche. Car il est bien clair que loin de nous contenter d'entendre les paroles de Dieu et de Jésus-Christ, nous devons aussi les mettre en pratique. Souvenez-vous, c'était la parabole des deux maisons d'il y a 15 jours. Le sage, c'est celui qui agit après avoir écouté. Alors c'est vrai que ce mot « loi » a pris un sens péjoratif dans notre société et encore plus le mot « commandement ». Alors peut-être pour les 10 commandements, nous pouvons dire les 10 paroles, car Dieu nous parle avant tout, il établit un contact, il nous parle pour nous guider, pour nous montrer un chemin fructueux et vivant, pour nous montrer la paix et l'espérance. Alors nous sommes aimés de Dieu, très bien, mais maintenant que faisons-nous de cet amour? Où devons-nous aller? Vers qui? Vers quoi? Pourquoi? Ainsi, Dieu ne se contente pas de nous aimer et de nous mettre au monde. Mais par ses paroles, il nous montre aussi un chemin, la voie à suivre. Il est notre tuteur, notre guide et nous accompagne sur les chemins de la vie, malgré tout. Cette loi qu'il nous donne, ses paroles, sont donc tout simplement la suite logique de l'amour qu'il a pour nous. Ces paroles qui peuvent nous paraître contraignantes et culpabilisantes ne sont qu'accompagnement d'amour. Quelqu'un a partagé une belle image avec nous, que je vous laisse. La loi de Dieu, c'est un peu comme les berges d'un fleuve. Elles sont là pour guider le fleuve sur sa route et le soutenir. Dieu ne me parle pas pour m'humilier, mais pour m'aimer. Et je vous rappelle le deuxième verset de notre passage de l'Exode, juste avant d'énoncer les 10 paroles. Dieu dit à son peuple, « Je t'ai libéré d'Égypte où tu étais esclave. » Vous pensez bien que Dieu ne dit pas cela d'abord, il n'annonce pas d'abord une libération pour donner à son peuple un autre esclavage avec cette loi qui vient. En même temps, nous sommes tous conscients que nous avons besoin de faire beaucoup d'efforts pour lire ces paroles avec amour et liberté et pour laisser de côté le moralisme et la culpabilité. Car finalement, c'est bien confortable de se morfondre dans sa culpabilité et bien plus difficile d'accepter la liberté et d'en vivre. Alors vous allez peut-être me dire que je n'ai pas encore parlé de la venue du Christ qui a revisité la loi. C'est vrai, Christ est venu et il a accompli les 10 paroles. Il ne les a pas supprimées, il les a gardées et est allé encore plus loin. Christ, souvenez-vous, nous donne 2 commandements, aimer Dieu, aimer son prochain. Son exigence paraît bien moins grande que celle de Dieu avec sa longue liste et pourtant. Pourtant, relisez le serment sur la montagne. Et vous me direz si vous pensez encore que Christ est moins exigeant que son Père. Un seul exemple. Dieu nous dit d'aimer notre prochain et de détester notre ennemi. Qu'est-ce que dit Jésus-Christ? D'aimer notre prochain et de prier pour ceux qui nous haïssent. Mais bien entendu, il ne s'agit pas d'exigence, vous l'avez compris, mais de guide pour avancer dans notre foi. Et puis, et enfin, entre Dieu et nous, entre ce que Dieu veut pour nous et ce que nous voulons ou croyons, il y a un monde. Nous pouvons essayer de comprendre, d'expliquer, d'analyser, de chercher, et c'est très bien. Mais il y a un moment où les questions subsistent. Le texte des Corinthiens que Nicole a lu tout à l'heure, « La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. » Dieu nous dépasse. Vient alors le moment de la confiance, c'est ce que nous appelons la foi. Recevoir et se laisser porter par notre Seigneur. Dieu nous donne son amour et ses paroles pour nous guider sur les chemins de la vie. Son amour gratuit nous libère et ses paroles structurent notre foi et nous permettent d'en vivre concrètement. Très loin de vouloir nous humilier ou nous culpabiliser, Dieu en Jésus-Christ nous montre un chemin, celui de la liberté, et nous invite à vivre à ses côtés, avec nos péchés, de façon responsable. Enfin, Dieu, par son Saint-Esprit, nous donne l'espérance nécessaire pour recevoir cela et le vivre dans la confiance. Tel est ce matin, Seigneur, après l'écoute de tes 10 paroles, notre confession de foi. Amen.